9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Je voulais faire à votre chance, mais ça faisait AVC. On va rester sur AVS aujourd'hui. À votre santé, Steve, spécialiste en chirurgie esthétique des émotions et auteur de Karma Sutra, maintenant en poche, est avec nous. Bonjour Steve.
Salut, salam, shalom Philippe. Salut, salam, shalom.
Bonjour. Christophe.
Christophe.
Ouais, parce qu'on n'a pas encore présenté Christophe, donc Christophe. C'est un salut, salam shalom, qui est dans l'air, puisque Christophe Hague est avec nous. Bienvenue Christophe.
Bonjour. Bonjour.
Cet explorateur de l'univers infini des émotions. Alors vous voyez, c'est encore un autre explorateur, Steve.
On est dans le même domaine, on est dans le même domaine.
Vous êtes tarologue et thératologue.
Plus thératologue.
Ouais, alors expliquez pour tout le monde ce que c'est qu'un thératologue.
Un thératologue, en fait, c'est quelqu'un qui étudie la nuit pour comprendre le jour. Moi, j'aime bien aller dans des univers extrêmes pour comprendre finalement notre quotidien qui est, lui, un peu plus normal. Mmh. Donc, j'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. Donc, c'est ça, le thératologue.
Ouais. Vous passez de l'extraordinaire pour mieux comprendre l'ordinaire.
Voilà.
Mmh. Moi, j'aurais une première question à vous poser.
On dit qu'il y a un livre avant ou pas? Avant la première question?
Accessoirement.
Ouais,
bien sûr, on peut en parler.
Voilà, vous êtes là pour parler de votre nouveau livre, Christophe, qui s'appelle Provoque ta chance. Pourquoi certains en ont et d'autres pas chez Albin Michel. Steve, c'est à toi.
Comment est-ce que vous aimez déguster votre viande? Crue, bien cuite ou à point?
Alors, moi, c'est vraiment quasi cru. Il faut peut-être pas le dire au lecteur, mais à la fin, je pose une hypothèse.
Exactement dans le livre.
Ouais. Et je relis ça à finalement notre sexualité.
Exactement. Ouais. Et c'est un point dans le livre. Je lis beaucoup, énormément. Je lis presque un livre par jour. Et donc j'ai vu beaucoup de choses, etc. Super intéressantes. Mais ça, quand j'ai vu, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. C'est absolument extraordinaire. Et les gens pourraient acheter le livre juste pour trouver ce truc-là. Et là, ça va faire des ravages.
Et je vous pose la question, Steve.
Moi?
La cuisson de la viande.
Rapprochez votre micro, parce que moi je veux savoir comment il mange sa viande. Et s'il mange, je rectifierai.
Alors
Steve, j'espère que tu as intérêt à être...
Personnellement, quand je suis sûr du restaurant, d'accord, et de l'hygiène du restaurant, je mange mes steaks tartare, avec un œuf cru au milieu, avec des capres.
Ah ben on est pareil.
Un peu de ketchup, un peu de mayonnaise. Exactement. Mais attention, quand je suis sûr du restaurant.
Ouais, il faut la qualité.
Il faut la qualité. Voilà. Alors, Philippe, vous savez tout sur mes habitudes alimentaires.
Presque tout.
Et les gens achèteront le livre et découvriront pourquoi.
Bien. Je pensais que ça venait de Bernard Werber, qui la refuse aujourd'hui.
Qui la refuse.
Non, il la refuse pas, mais moi-même, j'étais persuadé que lors d'une discussion avec Bernard Werber, ça venait de lui.
L'auteur des fourmis, enfin, le
grand. Ouais, bien sûr. Exactement. Et c'était il y a des années. Alors là, il y a ce sacré teasing, parce qu'on dit toujours pas quelle est la.
Non, on dit pas, et on
la,
le dira
la fin
pas.
Du truc. Mais ouais, j'attribuais ça, en fait, à Bernard Werber, qui a toujours comme ça des pensées créatives, des espèces d'eureka soudain. Mm-hmm. Et en fait non, ça venait de moi. Il m'a dit mais non, c'est toi, c'est toi qui me l'a raconté un jour. Bon bref.
C'est voilà. Que les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter. Peut-être qu'il a refusé la paternité.
Ouais, il refuse peut-être. Ouais. C'est un fils illégitime.
Voilà.
Peut-être.
Il avait un grand moment de gênance à ce moment-là.
Alors moi je connaissais les serial connards. Et les serial connasses, hein, bien sûr, pas de discrimination à l'antenne. Hein. Bien sûr, on a beaucoup de respect pour les deux genres. Mais je ne connaissais pas les serial vénards. Et j'ai appris qu'il y avait des céréales vénards, voilà, dont j'ai cru faire partie, parce que je cochais toutes les cases. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ces céréales vénards?
Alors, il y a même les deux, en fait. Moi, j'adore ce film Incassable.
Ouais.
Vraiment, il y a Elijah Price dedans, qui est interprété par Samuel L. Jackson, et qui dit, en gros, il y a deux types de personnes, aux deux bouts du continuum. Il y a les super costauds et ceux qui sont, donc les incassables et les cassables, dont lui fait partie.
Exactement, ouais.
Et moi, je pense que c'est la même chose. Il y a d'un côté avec les chanceux, il y a les chanceux et il y a les céréales poissards aussi. Mmh. Et donc j'ai étudié les deux pour comprendre ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire pour finalement se créer des opportunités, attirer la chance à soi, parce que ça c'est l'idée du livre. Mmh. On peut provoquer sa chance. Donc ce livre, en fait, j'ai essayé d'aller voir tout un tas de personnages assez extraordinaires. Donc il y a des chasseurs de trésors, il y a la seule survivante d'un crash d'avion qui a quand même survécu.
Ça, vous aimez bien. Vous, les survivants du crash d'avion, c'est un peu votre truc.
Ah ouais, alors c'est vrai que j'avais déjà vu.
Bon, je veux pas dire, mais.
Oui, j'avais déjà bossé avec Nando Parado, qui est un survivant de ce fameux crash dans les années 70.
Dans les Andes.
Cordillère des Andes.
Tout à fait, ouais.
Et qui avait survécu. Mais pourquoi je vais voir ces populations-là? Parce que ces populations-là, elles sont à un moment confrontées à des situations extrêmes, elles se révèlent, et c'est à ce moment-là qu'elles ont une vraie lucidité d'elles-mêmes. Quand t'es face à la mort, quand t'es dans une situation critique, il y a des choses élémentaires qui se révèlent à toi, et que t'aurais peut-être pas comme ça perçu dans ton quotidien. Et d'ailleurs, moi, je suis intimement convaincu que les grandes vérités sur le genre humain sont les plus simples. Si simples qu'un enfant peut les comprendre. Mais elles se révèlent pas de manière si évidente dans notre quotidien. Et c'est pour ça que je suis thératologue, c'est pour ça que je vais les voir. Parce que eux, ils se révèlent comme ça.
Il y a ce capitaine Hawke, là, qui a des histoires incroyables, dans le livre.
Alors, je vais tout de suite en partager une avec vous. Et d'ailleurs, ça, c'est un des facteurs clés de la chance. Alors, il se retrouve un moment en pleine nuit avec une équipe des forces spéciales. Donc, Captain Hawke, c'est un ancien des forces spéciales américaines. Vraiment le top du top, béret vert, etc. Et le type, à un moment, ils ont confisqué avec son équipe le jet privé d'un baron de la drogue. Et ils sont partis en mission sur un territoire ennemi. Et donc là, ils sont au-dessus du territoire ennemi. Et d'un coup, boum, première panne moteur.
C'est l'histoire que je voulais que vous racontiez en plus. Hein. Voilà, on parle de chance et de synchronicité. Je voulais que vous racontiez la blague qu'il raconte dans le truc. Et vous voyez, c'est complètement hallucinant. On parle de la chance et vous y êtes.
Et donc, il a donc situation qui est pas, ouais, qui est pas top, quoi. Donc, mais il reste encore un autre moteur. Donc pour l'instant, pas de raison de paniquer. Sauf que 30 secondes plus tard, boum, deuxième panne moteur. Donc là, l'avion, ça devient critique. Il va se scratcher. Donc là, il y a le pilote qui a une petite gouttelette qui ruisselle le long de sa tempe. Il est vraiment en panique fort, comme en fait tous les membres de l'équipage. Et là, Captain Hawke, un moment, c'est les nerfs, c'est son cerveau inconscient, son inconscient d'adaptation qui porte bien son nom, qui le pousse à entrer dans un mécanisme d'autodérision. Et là, il commence à se foutre de même de lui, etc. Il dit, bah, attendez les gars, vous rendez pas compte, là si on se scratch avec cet avion là mais ça va être la honte pour nous, 20 ans de bons et loyaux services dans les forces spéciales, on se crache en plus avec le jet privé d'un baron de la drogue, on va finir dans une espèce de nuage de cocaïne, comme ça on va faire la risque.
Imaginez les JT demain,
voilà,
etc.
Les gros titres, ouais, dans les médias, ouais, dans la presse, etc. Donc ça va être la honte totale. Et donc ils commencent tous à se moquer d'eux-mêmes. Et là on voit qu'il se passe un phénomène. C'est-à-dire que ça va libérer une espèce de tension psychique qui va permettre ce qu'on appelle la pensée latérale. La pensée latérale, c'est en fait quand on est dans des situations un peu complexes, c'est de se dire, attends, mais si on se prend pas au sérieux, on va avoir un tilt, on va peut-être trouver une solution au problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le pilote a eu un moment cette idée, mais en se marrant à gorge déployée. Il s'est dit, attends, faut que je fasse demi-tour, faut que j'aille surfer sur tel ou tel vent. Et voilà, je me souviens, il y avait juste en plus un sol qui était, voilà, on pouvait s'atterrir là-bas. Donc, et il a eu cette espèce d'eureka. Donc l'autodérision, c'est un facteur clé des chanceux. Les chanceux sont des personnes qui sont capables de se moquer d'elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle les gélatophiles. Rien à voir avec les fans de glace italienne. Ce sont des personnes qui sont capables d'autodérision. Voilà. Et en plus, l'autodérision, c'est une pompe à endorphines. Donc ça vous permet en plus de même pas ressentir la douleur. Donc si à un moment où vous avez besoin de vous bouger, je sais pas, de soulever un truc parce qu'il y a votre gamin qui est bloqué, je sais pas quoi, être dans l'autodérision, en plus, ça décuple les forces musculaires.
Alors là, il y a les gélotophiles, mais il y a aussi les gélotophobes.
Oui, alors ceux-là, faut un peu les éviter, surtout dans le couple, parce qu'il y a tout un tas d'études qui montrent que bah, si on se met en couple avec quelqu'un qui a pas trop le sens de l'humour, qui est très égocentré, qui est très narcissique, hein, dans cette société du selfie, du machin, du tout ce que tu veux, et bah derrière, l'harmonie du couple va être à un moment vraiment égratignée, et en règle générale, le couple, enfin la longévité du couple, elle est de très courte durée.
Et puis il y a les catagélasticistes.
Ouais, on est dans
au Scrabble, ça vaut des points, ça.
Là, je sais plus combien il y a de lettres.
Beaucoup, beaucoup.
Mais là, on est dans un entre-deux, mais on n'est pas encore avec la puissance psychique d'un gélotophile.
Ok. Et la puissance psychique d'un gélotophile, ça donne quoi, par exemple? Ça lui permet de matérialiser dans ce monde? Ça lui permet d'attirer la chance? Ça lui permet quoi?
Et ça lui permet surtout d'attirer la créativité. Voilà. C'est-à-dire ces personnes-là, à un moment, quand elles sont... Regardez, en ce moment, on est comme des boxeurs, on se prend plein de coups de malchance, on est comme ça, retranchés dans les rings du...
De la vie,
voilà,
de tout
dans
ça,
les cordes du ring... Et on est quasi en PLS, quoi. On subit le truc. Eh bien, l'autodérision permet de pas subir, de sortir de la position latérale dessus. On n'est plus à un stade fœtal. Finalement, c'est là où on enfonce. Et c'est ce qui nous permet de renverser les rôles. C'est comme quand on est attaqué, je vous le souhaite pas, mais j'ai eu un coup ce récit-là, attaqué par un lion. Là, faut pas prendre ses jambes à son cou, faut pas fuir. Faut affronter le problème. Et donc derrière, comment on l'affronte? en prenant de l'ampleur, hein, face à l'animal, en rugissant, en bougeant un petit peu dans tous les sens et en avançant vers le problème. Mmh. Bah, les gélotophiles, c'est exactement ce qu'il faut.
Et donc là, en fait, pour sortir de la PLS un petit peu, il faudra aller taper dans le point G, le point gélatophile, en fait. Ça serait ça, hein, Philippe, pour
pas
rester
mal.
Sur
j'aime
le...
bien, j'aime bien, j'aime
ah,
bien.
Pour rester dans le steak haché, dans la viande crue, Philippe, on reste dans, on tape dans le point G. Voilà, direct. Moyen mnémotechnique pour les auditeurs, ils se rappelleront le point G, la gélatophilie, l'amour de la chance, etc.
Et les trois points qu'on vient de voir, ce sont les profils différents que vous distinguez, Christophe, en matière d'autodérision.
Ouais,
c'est ça,
ouais.
Exactement.
Alors, moi, il y a un truc, dans le livre, parce que j'ai beaucoup aimé le film Tenet, vous n'avez pas aimé Tenet, j'ai l'impression, ou vous n'avez pas... C'est quoi Tenet? Qu'est-ce qui se passe avec Tenet?
Oh, j'ai fait une petite remarque, mais je pense que beaucoup de gens, à un moment, j'étais concentré jusqu'à la moitié du film, et à un moment, j'ai lâché, j'ai dit, allez, tu sais quoi, va te balader en forêt, il y a beaucoup plus de vertus à être au contact des arbres, ça permet de faire baisser la pression artérielle, de mieux gérer son stress, etc., que de ruminer le truc, voilà.
Alors Tenet, moi pour le comprendre, je vous avoue, j'ai dû aller sur des blogs et j'ai compris qu'en français c'était très limité, j'ai dû aller chez les Américains et j'ai compris que là il y a des mecs qui avaient passé des nuits entières à expliquer Tenet, le porte-clés sur le sac à dos, en fait non, tac, et ouais c'est assez ténu. Mais c'est assez intéressant comme film, j'invite les auditeurs à le voir.
Mais il y a un truc par rapport à ça, parce qu'on parle d'un film avec un scénario quand même qui est plus complexe que la
très
moyenne.
Très complexe.
Très complexe. Mais moi j'ai un vrai message aussi dans le livre, c'est le suivant. Plus c'est compliqué, moins faut réfléchir. Plus c'est compliqué dans la vie.
J'adore.
Moins faut réfléchir.
Alors expliquez un peu, parce qu'après, vous donnez tout un tas de stratégies qui paraissent complètement... On se dit, mais non, c'est pas possible. Et en fait, si. Alors expliquez un petit peu.
Alors, il y en a une, par exemple, qui nous permet de nous connecter facilement à notre intuition. Elle vient encore de Captain Hook. Ouais. Donc, Captain Hook, juste, je redis encore deux, trois mots sur lui.
Ouais.
C'est un peu le père spirituel de Bear Grylls, le type qui fait l'émission Man vs. Wild et qui est un peu adulé en Europe. Ouais. Lui, c'est une puissance 10. C'est aux États-Unis sur Discovery. C'est des dizaines de millions de téléspectateurs. Un survivaliste aujourd'hui, retraité donc. Et il me raconte la chose suivante, il me dit, bah, en fait, moi, dès que je suis face à un problème, que j'ai un coup de malchance, que la situation se tend, etc., donc je vous ai parlé avant de l'autodérision, il a un autre truc, il dit, bah, moi, je pense dans ma deuxième langue. Et il se trouve que lui, il en parle 5, 6, 7 des langues, il a d'ailleurs écrit des livres là-dessus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand il pense dans sa deuxième langue, en fait, il y a comme des fils qui se touchent. Et à ce moment-là, il a comme un espèce de tilt. Mais vraiment, souvent chez lui, c'est de manière imagée, il voit la solution devant lui.
Ça lui permet de ralentir, ouais. Et surtout de penser en moins de mots.
Voilà, donc on rentre dans une espèce de pensée plus délibérative, il prend un peu de la distance, etc. Alors ça, c'est une des hypothèses. L'autre hypothèse que j'avance aussi, c'est qu'on est plus facilement comme ça connecté à ses émotions. Parce que généralement, dans sa deuxième langue, on a moins de vocabulaire. On a moins de mots à son actif, on a un dictionnaire qui est moins épais. Et donc notre cerveau, si on se pose le problème dans sa langue, voilà, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire maintenant, où je mets mes enfants, dans quel établissement, est-ce que je fais une reconversion professionnelle, est-ce que je reste avec cette personne, etc. On se pose cette question dans sa tête et on essaie de répondre dans sa deuxième langue. Eh bien, en faisant ça, parce qu'on bénéficie de moins de vocabulaire, en fait, on va pas rentrer dans des tournures de phrases compliquées. On va pas avoir des mots à double sens comme on a en français ou à triple, quadruple sens. En fait, on n'a pas tout ce brouillard d'un espèce de verbiage, et on reste connecté au matériau brut de l'émotion, et l'intuition, souvent, elle nous amène sur la bonne autoroute.
Et on a de la chance ce matin, puisque Christophe Haag et Steve sont avec nous. Christophe, vous parlez de « Provoque ta chance », pourquoi certains en ont et d'autres pas. L'éditeur, c'est Albin Michel.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et on parle de la chance ce matin, à l'occasion de la sortie du nouveau livre de Christophe Haag, qui s'appelle « Provoque ta chance, pourquoi certains en ont et d'autres pas ». Albin Michel, Steve est avec nous sur ce plateau. Un livre que vous avez écrit après une forte période de loose. Mais peu de gens le disent, et que vous avez terminé d'écrire un vendredi 13 à 13h.
Ouais.
Oui, c'est pour le storytelling, ça?
Ah non, c'est véridique.
Non,
c'est
ça
vraiment,
se voit.
Je savais même pas qu'on était le vendredi 13. Je mets le point final, chie dans le train, direction la Bretagne pour aller voir ma copine. Je mets le point final, je vois le truc, que des 13. Et je me dis, c'est fou, pour le superstitieux que je suis. Parce que moi, ce livre, ça a été dur pour moi. Hein. J'avais plein de croyances limitantes. Je me dis, écrire un livre sur la chance, est-ce que ça va pas m'amener la schkoumoun? Pas du tout. Et c'est vrai que c'était... Non, ça, il a fini comme ça. Donc...
Et d'ailleurs, sur les croyances limitantes, pour revenir à ce qu'on disait précédemment, pour citer le livre, dans l'idée de penser dans une autre langue, vous dites très bien, concernant les effets positifs, le premier est qu'en procédant de la sorte, j'ai pu diminuer le flux de pensées, parmi lesquelles des pensées polluantes. Mmh. Parce que c'est vrai que quand on pense dans sa langue, par exemple les gens qui pensent avant de dormir, il y a tout un tas de pensées polluantes, alors que quand on pense dans une autre langue, bah c'est beaucoup plus réduit, et ça permet, beaucoup de gens disent, comment je fais pour éliminer les croyances limitantes? Bah, tu penses dans une autre langue. Voilà, encore une nouvelle technique que je connaissais pas et qui est magnifique.
Ouais, puis c'est ce qui est en train de... Voilà, nos ados, ils ruminent à fond sur un certain type de pensées limitantes, c'est notamment des pensées liées à l'apparence physique.
Tout à fait, oui.
Et on n'a jamais vu des pics comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont assaillis, hein, c'est comme s'ils étaient hackés, si leur cerveau était hacké par ce type de pensée. Alors tiens, qu'est-ce que je dois mettre comme habit, comme machin, comme bidule, la coupe de cheveux, le bidule, dans cette société à nouveau qui est très narcissisante. Bah ouais, à un moment, faut évacuer tout ça. Et la pensée simple, c'est la plus efficace, c'est la plus puissante.
Mais est-ce que les personnes qui sont d'apparence physique belle, hein, ont plus de chance que les autres?
Comme vous, Philippe, par exemple.
Un autre genre de beauté.
Bah alors, c'est vrai que
moi,
là,
j'ai une beauté de radio.
Je parle de une beauté, beauté de dos. Voilà. Vous avez une beauté de dos, Philippe.
Voilà. La beauté de télévision, par exemple.
C'est, alors, il y a plein d'études qui montrent qu'effectivement, il y a une certaine forme d'injustice. C'est-à-dire que les personnes qui ont un physique, alors qui rentrent, voilà, avec les critères actuels de ce qu'on appelle la beauté, etc., où on est à peu près symétrique, on a un rapport taille-hanche bien particulier, où on a une forme du visage particulière, etc., effectivement, ces personnes-là accèdent plus facilement au marché de l'emploi, accèdent plus facilement à certaines personnes, ont des relations sociales qui sont facilitées, donc il y a une vraie injustice, mais il y a plein de chemins détournés qui font que, bah, même si on n'a pas ce physique-là, on peut provoquer sa chance, et c'est aussi l'idée de ce livre-là, c'est-à-dire, malgré les inégalités génétiques, malgré les inégalités sociales, on peut à un moment, on peut avancer et on peut provoquer plein de choses. Sachant que, par contre, et c'est là où je mets aussi le bémol dans ce bouquin, faut faire aussi attention parce qu'on a aussi pas mal de marchands de sable qui vont vous dire, allez, en 48 heures, tu vas toucher $1 million, etc. Il y en a plein comme ça. Et là, faut faire attention parce que nous, on reçoit avec mes équipes beaucoup de personnes qui entrent en phase de dépression parce que ces personnes-là croyaient vraiment pouvoir conduire la Lamborghini, le machin en 24 heures ou en une semaine. Et en fait, quand tu n'atteins pas ces objectifs très très hauts, bah, tu peux être que déçu. Et donc là, baisse de confiance en soi, baisse de l'estime de soi, etc. Ma mère me disait toujours, tu sais, la lune, elle est bien accrochée. Je sais pas pourquoi tout le monde veut la décrocher. On a tous des rêves faisables qui sont en résonance avec nous-mêmes. Bah, essayons d'atteindre cela. Et là, il y aura une satisfaction. Mais des fois, faut pas aller. Et puis, faut pas essayer d'emprunter les rêves des autres. Je veux dire, on a un CDD de vie sur cette petite boule bleue. Moi, la définition que je fais de la chance, c'est le résultat d'une cohérence avec soi-même. Si t'es cohérent avec toi-même, bah, t'atteindras tes objectifs à toi.
Et puis, revenir à une notion de, comme on le dit souvent à la radio, d'objectif minimum, en fait, à accomplir, et puis un autre objectif, etc.
Les petites victoires.
Les petites victoires,
ouais. Finalement, vont contribuer à ce qu'on appelle le bonheur, le bien-être, etc.
Il y a une autre notion, parce que vous parlez de quête existentielle aujourd'hui à travers la beauté, les gens qui se refont faire tout un tas de choses. Aujourd'hui, on en a parlé, hein, le vagin réinitialisé aux paramètres d'usine, l'effet fesses, les zoubzoubes, comme on dit, hein, Philippe, c'est
même
comme
les
ça.
Cordes vocales.
Je ne le dis pas du tout avec vous. Je suis content de vous entendre parler de zoubzoubrie.
La zoubzoubrie est à l'ordre du jour, Philippe, aujourd'hui, à notre réunion.
Vous allez trop à Dubaï.
Oh non, il y a zoubzoubrie à Paris, est très très en vogue, Farid. J'ai pas besoin d'aller à Dubaï pour voir des zoubzoubes. Non, j'en ai pas. Je constate juste au quotidien ça et les lèvres. Voilà, c'est bizarre. Toutes les filles ont des lèvres d'africaines. Ou alors, il y a un croisement génétique en 6 mois. Je ne sais pas. J'ai dû louper un épisode, Philippe. Voilà.
Bien.
Et juste donc, vous revenez à un truc existentiel beaucoup plus important, c'est l'empreinte émotionnelle que les gens vont laisser sur Terre. J'ai trouvé ça absolument magnifique. C'est le bilan, les gens font leur bilan carbone, ne pas polluer, attention, trier, mais quelle empreinte émotionnelle en fait.
On est tous des agents pathogènes, on peut choisir de produire des émotions bénéfiques ou des émotions toxiques. Et moi je vois trop de personnes qui à 50 ans regardent dans le rétroviseur de leur vie et ne voit que bah finalement bah ouais j'ai pollué en fait.
Grave.
J'ai psychiquement pollué. Grave. Mon entourage pro, mon entourage perso, j'ai passé plus de la moitié de ma vie pour juste satisfaire des besoins personnels à polluer les gens.
Ce sont des super pollueurs en fait.
Des super pollueurs et je veux dire l'émotion, une émotion toxique c'est comme du plastique qu'on jette à la mer. Invariablement, c'est charrié par les vagues et ça te revient en fait. Et en plus, c'est extrêmement difficile à décrotter en fait de la tête.
des autres, corps, de soi.
Voilà, de soi. Donc, quand on produit ce plastique psychique, à un moment, il nous revient. C'est pour ça que tout ce qu'on fait, tous nos comportements émotionnels, en fait, il y a une espèce de coup. Donc, il y a une espèce de retour sur investissement affectif. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin.
Tout à fait, ouais.
Annette Erkens, qui quand même, voilà, s'est crashé le 14 novembre 1992 à bord d'un Yak 40. Ne prenez jamais cet avion. C'est un des avions les plus dangereux. En pleine jungle vietnamienne, elle partait avec son amoureux. Elle a survécu 8 jours dans la jungle. Elle avait les deux jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée.
Avec des corps sur elle,
des cadavres sur elle, elle
a même récupéré à un moment le pantalon d'un cadavre parce qu'elle était coquette, parce qu'elle avait perdu, elle était en petite culotte et tout. Et Annette Erkens, elle a dit, mais ce qui l'a sauvée, ce qui lui a permis d'être résilient, c'est toutes les pensées positives, tous les souvenirs qu'elle avait avec les gens qu'elle aimait. Donc tout ce qu'elle avait investi affectivement avec les parents, les amis, etc. Et toutes ces pensées revenaient dans cette situation critique. Et c'est un peu comme Harry Potter quand il est face aux détracteurs, à ces monstres. Il va créer, je ne sais pas si vous voyez,
la bulle, ouais. Bulle de exactement.
Et fait un enchantement qu'on appelle le Patronus. C'est le nom de cet enchantement. Et bien pour créer ça, pour que notre cerveau, pour lui donner la possibilité de créer cette espèce de bulle de résilience, eh bien, faut investir positivement dans les autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure du foutez-vous la paix, restez juste centré sur vous-même, etc., ben, à un moment, je pense que se retourner vers les autres, retrouver ce goût des autres, hein, avec le Covid, on a perdu le goût tout court.
Tout à fait, ouais.
Retrouver le goût des autres, si cher à Jean-Pierre Bacri, eh bien, ça nous permet à nous de nous muscler face aux coups durs, face aux coups de malchance, et donc de recycler la malchance, transformer en chance.
Et on parle aussi beaucoup aujourd'hui d'investissement, comme vous l'avez dit, investissez là-dedans, investissez dans les émotions, faites des rencontres, parlez avec des gens, comme je dis souvent à Philippe, faites de plus en plus de partouzes intellectuelles, avec des gens les plus cultivés possibles, dans des domaines les plus différents des vôtres.
N'est-ce
pas Philippe, je vous dis souvent ça, hein. Philippe est un peu réfractaire aux partouzes intellectuels, mais je
me rappelle à une époque où je vous en proposais, Steve, et où vous me réfutiez les partouzes intellectuels. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai changé, Philippe.
Est-ce que vous voulez qu'on en parle?
J'ai changé. Mais comme je dis souvent aux gens qui disent il a changé, est-ce que j'ai fait tout ça pour rester le même? C'est la vraie question.
Pourquoi? Parce que dans votre dernier livre, vous convoquez une ex-star du porno.
Exactement.
Au parloir.
Exactement, tout à fait. Voilà. Du Kamasutra au Karmasutra, ça paraît complètement logique, en tout cas pour moi. N'en déplaise aux deux imams exilés à Dubaï, dont on citera bientôt les noms, Philippe.
Décidément, aujourd'hui, ça tire à balles réelles, j'ai du mal à suivre cette émission. Vous aurez les noms qui s'afficheront sur votre transistor à la fin de l'émission. Ce que vous dites, Christophe, c'est que finalement, la chance, aujourd'hui, c'est une compétence. Et que les compétences, ça se travaille. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est une capacité à rentabiliser l'inattendu, que l'inattendu soit une bonne ou une mauvaise surprise.
Très puissant.
Donc ça, c'est quelque chose qui est là. Et c'est une prise de conscience aussi de la chance qu'on a. C'est-à-dire que cette capacité ne vaut que si on se dit « Attends, en fait, je suis un être humain, je suis au milieu de l'univers et je survis. » On est à la base un accident cosmique. Si aujourd'hui on devait rembobiner le film de la vie de l'humanité, on plante la graine exactement au même endroit avec les mêmes conditions, la probabilité est extrêmement forte que jamais l'espèce humaine arrive sur Terre. Et d'ailleurs, les créatures qui auraient été à un moment créées auraient été totalement différentes de nous. Donc déjà, se rendre compte de cette chance-là, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Mais oui, c'est une compétence parce que derrière, on peut rentrer dans des schémas mentaux qui sont bien particuliers. Je vais vous donner juste une image. Deux dates, 13 novembre 2015, c'est le Bataclan, et un mardi soir de 2018. Ces deux dates-là, elles comptent pour un des grands témoins du bouquin qui s'appelle Damien. Et Damien, c'est quelqu'un qui
c'est le super poisseux.
Exactement.
C'est le super poisseux qui est capable aujourd'hui de recycler ses coups de malchance. Et Damien, c'est un humain extraordinaire. Donc, il a vécu le Bataclan. Il a été sous décor.
Et vous le racontez très bien dans le livre.
On est à l'intérieur du truc. Et donc, il s'en sort. Et il se trouve que 3 ans plus tard, il prend sa bagnole, il venait de répéter avec son groupe de rock. Il y a un accident, il a un blackout, il ne sait plus ce qui s'est passé. Sa bagnole fait plein de tonneaux. Et là, aujourd'hui, il est en chaise roulante. Damien, il pose une question essentielle dans le bouquin. Et ça, les vrais chanceux se la posent quasi quotidiennement. C'est qu'est-ce que tu es prêt à perdre dans la vie? Et voilà la réponse de
Alors,
Damien.
Alors, il se pose la question, la vue, l'odorat, enfin plein de choses.
Ouais, il passe partout.
Et il se dit, en fait, moi, les mains... Ben non, parce que je suis un joueur de gratte et ma guitare, c'est ma thérapie.
Grave.
Je peux pas perdre ça. Dis la tête. Mais non. Je vois autour de moi, il y a des gens qui ont Alzheimer. T'as plus de sens à la vie. Si à un moment, tu sais plus ordonner les choses, etc. Il dit, la seule chose que j'étais prêt à perdre, ce sont mes jambes. Donc finalement, le destin a bien fait les choses. Et il avance.
Ouais, enfin, il le fait pour ses enfants aussi. Enfin,
et il le fait pour son enfant.
Pour son enfant qui est, voilà, qui est une raison de vivre. Parce
mais
qu'à
il
un moment
a accepté.
Donné, oui, mais à un moment donné, il pense à mettre fin à sa vie quand même.
Oui, oui. Ah, il est passé par des moments très, très compliqués. Il a fait un enfant à une personne voilà, qui était. Etc. Il lui est arrivé plein de choses comme ça. Mais il le fait. Mais derrière, il a accepté la chose. Et cette question-là, il se la pose.
Qu'est-ce
tout
que
le temps.
Je suis capable de perdre
dans la vie.
Bien, la pub.
Pourquoi pas.
Beaucoup de. De choses puissantes ce matin, puisque Christophe Hague et Steve sont nous invités jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
On parle de chance ce matin et c'est le sujet du nouveau livre de Christophe Hague qui est notre invité aujourd'hui. Provoque ta chance aux éditions Albin Michel. Est-ce que finalement, quand vous dites. Que la chance et la malchance, ou alors il faut transformer chaque malchance en chance, c'est pas un peu bisounours ça, aujourd'hui ça ?
Non, parce que je dirais que c'est très physiologique et très neurologique. C'est-à-dire que quand on a une malchance qui nous tombe sur le coin de la tête, en fait il y a plein d'émotions qui vont avec. Donc il y a une charge, on peut parler d'énergie au sens physiologique du terme, une charge électrique, etc. pour le cerveau. Et les céréales chanceuses, ce qu'ils arrivent à faire, c'est recycler ça. C'est-à-dire que même si la coquille, elle est toute poisseuse, c'est un truc un peu tout pas beau, tout merdique, ça sent pas bon, c'est déplaisant, c'est désagréable. À l'intérieur de cette coquille-là, eh ben, il y a une émotion. Et l'émotion, l'étymologie, c'est ex movere, mettre en mouvement. Donc en fait, c'est de l'essence pour notre moteur. Donc il suffit un moment, entre guillemets, filtrer, décanter le schmilblick. Et derrière, on met ça dans notre moteur et ça nous permet d'avancer. Les chanceux, ils avancent. Moi, je dis souvent, mieux vaut un con qui bouge que 10 intellectuels assis. Et l'autre truc, c'est ce que disait Abraham Lincoln, et là, j'ai ma petite pompe. Il peut arriver des chances à ceux qui attendent, mais uniquement celles laissées par ceux qui ont foncé. Donc, la chance, elle se produit dans le mouvement. Et c'est un matériau qui a besoin de bouger. Et d'ailleurs, ce que je remarque aussi dans le bouquin, ce que j'ai observé, c'est que quand nous, on donne notre chance à d'autres personnes, il y a d'ailleurs tout un mouvement sur les réseaux sociaux en ce moment qui s'appelle, je crois à peu de choses près, Provoquons la chance, Provoquons notre chance, où les gens partagent leur réseau social, notamment sur LinkedIn, à des personnes qui sont en précarité, professionnelles, etc., qui ont un tout petit réseau, tout maigrichon. Et bien, en faisant ça, ben déjà, vous créez de la chance chez l'autre, vous le créditez peut-être d'opportunités, mais un jour ou l'autre, vous allez avoir, sans même le calculer, parce qu'il faut jamais être dans le calcul, un espèce de retour sur investissement. Donc la chance, c'est un matériau qui doit bouger, c'est pas quelque chose de statique.
C'est ce qu'on appelle le helper's eye, c'est ça un petit peu dans votre livre.
Ouais. Exactement, donc il y a neurologiquement, on se fait même du bien à soi-même. Notre cerveau, il croit même que quand on produit un acte bienveillant, le bénéfice il est pour nous. C'est comme si nous on avait bénéficié de cet acte qu'on produisait pour les autres. Et d'ailleurs à ce sujet, petite parenthèse, moi dans le bouquin il y a tout un gros volet sur la gentillesse, sur la production d'actes gentils. D'ailleurs l'un des parrains du bouquin c'est Frédéric Lopez qui est un vrai gentil, authentique, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'essaye de réhabiliter
c'est dormir aussi ces voyages en terre inconnue.
Oui,
c'est ça
tout à fait. Et dans une société où on est plutôt à glorifier la perversion narcissique, alors j'ai tout un sondage et toute une réflexion dans le bouquin là-dessus, les gens qui ont des postures machiavéliques, etc., en se disant, bah oui, c'est eux, finalement, c'est celui qui gueule le plus fort qui obtient le truc. En vrai, de vrai, c'est pas si vrai que ça. Et donc, dans le livre, je dis, bah, en fait, on gagnerait à être beaucoup plus gentil. Déjà, les personnes qui produisent des actes gentils, authentiquement, produisent plus d'ocytocine. L'ocytocine, c'est le baromètre chimique du bien-être chez les mammifères. En produisant plus d'ocytocine, on produit plus d'oxyde nitrique. Ça vient protéger le cœur avec la dilatation des vaisseaux. On produit aussi plus d'endorphines. En plus, on produit moins d'hormones de stress. On est moins stressé. En ce moment, là, il y a du stress de partout. C'est le climat, il est chargé, c'est orageux émotionnellement. Et bien, on régule plus facilement son stress. Un vrai gentil, produit 23% de cortisol de moins que les autres. Produire 6 actes gentils, aider la petite grand-mère à passer du temps d'écoute active avec les gens qu'on aime, etc. 6 actes gentils par semaine permet de baisser de manière significative nos niveaux d'angoisse qui n'ont jamais été si élevés. Et message d'espoir, 30 à 50% des gens sur cette petite boule bleue sont des vrais gentils. Et ça, ça fait plaisir à Darwin.
Mais pourquoi, quand on parle de gentils, on dit toujours vrais gentils? Parce que ça peut dire que s'il y a des vrais gentils, il y aurait des faux gentils.
Il y a
pourquoi
des
vous
faux,
dites pas c'est des gentils?
Bah vous qui êtes dans les médias, vous les voyez, les faux gentils. C'est-à-dire, voilà, tout sourire devant les projecteurs, etc. Le fameux sourire de façade. Et où derrière, bah, on parle mal au staff, on parle mal à telle ou telle personne. Et ben, ouais, non, en fait, la fausse gentillesse, déjà, ça se voit au bout d'un moment. Donc derrière, la personne qui produit ça va perdre de sa légitimité. Les gens auront moins envie d'être en interaction avec cette personne. Et il n'y a pas le même effet, sur le cerveau. Le cerveau, il sait en fait quand c'est authentique. Et quand c'est authentique, bah là, il se passe plein de petites productions chimiques qui nous sont bénéfiques. Et d'ailleurs, les vrais gentils ont une espérance de vie supérieure à la moyenne. Et quand tu produis de la gentillesse, eh bien derrière, tu augmentes l'espérance de vie et c'est bien plus puissant que faire 4 fois du sport par semaine. Quoi. C'est aussi puissant que ça.
Est-ce que c'est ça que vous appelez l'immixtion toxico-affective ou c'est autre chose?
Ouais, on est là-dedans. Mais alors, l'immixtion, ça, c'est quand on induit à un moment des émotions chez l'autre. Donc là, on peut presque parler aussi de contagion émotionnelle
négative, un peu.
Négative,
okay.
Où on va polluer un petit peu le cerveau de l'autre.
Okay.
Et ça, on revient.
Confère votre livre précédent.
Voilà, où je parlais beaucoup des enflures toxiques et de l'impact qu'elles ont ces enflures toxiques, sur leur entourage et qui a un impact, qui crée des troubles psychosomatiques, qui dérègle en fait.
Donc c'est quel type de personne? C'est une personne qui souffre d'immixtion toxico-affective envers son entourage. Elle fait quoi aux autres?
En fait, souvent ce sont des personnes aussi soit qui sont très influençables. Donc là, je parle du récepteur.
Hein. Ouais, le récepteur.
Le récepteur, cette personne-là, elle va être, c'est une éponge qui s'imbibe et qui est pas capable de s'auto-essorer.
Mm-hmm.
Donc il y a 2-3 petites carences dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis des années. Et donc ces personnes-là gagneraient à un peu muscler le jeu pour finalement extraire, faire une espèce de détox émotionnel, on va le dire comme ça.
Et les autres, qu'est-ce qu'ils devraient faire?
Et ces personnes-là devraient travailler leur intelligence émotionnelle. Et on le voit, nous, dans les programmes, on a créé des instruments de mesure pour ça, des programmes de développement perso. Les personnes qui bossent leur intelligence émotionnelle, derrière, sont significativement moins toxiques. Donc quelqu'un qui est très toxique, on lui fait bosser ça, prendre conscience de l'importance des émotions, etc., de l'impact des émotions. Eh bien, en prenant conscience de tout ça, ces personnes-là ne produiront plus, ou en tout cas beaucoup moins, de saloperies psychiques.
Alors, on avait parlé dans une précédente émission que vous voyez d'ailleurs sur YouTube du QE,
tout à fait,
du quotient émotionnel. Oui. Est-ce que vous pourriez parler aujourd'hui d'un QC?
Alors, déjà, l'intelligence émotionnelle est un facteur chance. Donc, il vient nourrir ce fameux QC, ce quotient chanceux, peut-être.
Parce qu'il y a une équation de la chance que vous avez modélisée.
Voilà, c'est pas moi, c'est un physicien quantique qui est reconnu au CNRS, qui publie des papiers super intéressants dans des top revues scientifiques. Et c'est la première fois qu'un physicien quantique met en équation la chance. Et alors, je vais pas tout dire là-dessus, mais en gros, il nous dit qu'il faut être dans l'intention. Il faut vibrer émotionnellement sur cette intention sans planifier, sans être dans l'ego, sans se dire « Attends, moi, mon truc, je veux que ça se passe le jeudi à 12h32, que ça se produise à ce moment-là. » Et quand on respecte ça, alors il le décrit, il donne des images,
il explique,
etc.,
très bien comment matérialiser la chance.
Comment matérialiser tout ça. Mm-hmm. Eh bien, moi, je vous assure, moi, j'apprends aussi des personnes que je vais rencontrer. Eh bien, derrière, aujourd'hui, je sens que je vibre plus facilement sur mes intentions. Et il y a tellement de choses qui se produisent, c'est juste fou. Et moi, je suis un scientifique, je suis un chercheur, et je me dis, mais quand j'applique cette équation, c'est le fameux V moins I fois E, donc vous découvrez la chance.
Alors V, c'est vibration, I, c'est information,
voilà.
E, c'est émotionnel ou énergie.
Ouais.
Et V, c'est pareil, c'est vibration.
Très bien expliqué dans le livre. Ça là, et on invite les gens à acheter le livre. Il y a aussi SEP+, VS, SEP- qui est très très bien expliqué et qui explique vraiment comment pirater, hacker la chance, ou en tout cas augmenter grandement ses chances d'en avoir au quotidien. Franchement, c'est très fort.
Et dans les petits trucs qu'on m'a livrés, moi, alors ça, c'était pas entre guillemets un témoin classique du livre, mais c'est ma copine. Un moment, je me dis, tiens, elle a un truc tout le temps, c'est bizarre. Dans son agenda, elle a ouvert ce qu'on appelle des yes days.
Ouais, ça
c'est beau. Dans une société où on dit non à tout, hein, on vous dit non, dès qu'on ouvre la bouche, non, c'est pas possible. Non, trop compliqué, c'est trop. Et ben moi, je suis pour réhabiliter une espèce en voie de disparition qu'on appelle le oui. Et le oui, c'est quoi? Moi, dire oui aux choses, c'est s'offrir des opportunités. Et à titre personnel, j'ai 52 dates dans mon agenda à Outlook, je déteste planifier les choses. Mais quand même, ça, c'est le truc que je fais. Et il y a un logiciel qui me permet de le faire comme ça de manière
totalement
aléatoire. Voilà. Il y a donc une date par semaine, donc 52 dates. C'est des demi-journées, c'est soit le matin, soit l'après-midi, ou peu importe ce qu'on me demande. Alors, voilà, dans des limites éthiques. Parce que l'autre fois, j'étais sur le plateau de Brigitte Lahaye, j'avais une auditrice qui m'avait proposé un truc avec son mari. Elle disait, ah tiens, si ça rentre dans ce machin-là.
On va y aller mollo.
Voilà.
Finissons sur une bonne note, cette émission, parce qu'on a commencé sur le steak haché, Philippe. J'essaye de rattraper pour Philippe.
Il y a de la cohérence.
Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge dans cette émission.
Et donc, j'ai ces dates-là, où peu importe qu'on me demande une conférence, un match, un conseil, un truc à faire, etc., je dis oui.
Et aujourd'hui, c'est un yes day ou pas? Parce qu'on a des choses à vous demander.
Ouais, on a plein de trucs à vous demander.
Vous savez que je vous dis tout le temps oui.
Ça, c'est vrai.
Je ne réponds qu'avec des voyelles parce que c'est chimereux d'être ici.
C'est vrai. Ouais.
Mais ça, c'est fou. Vous dites oui. Alors, ok, il y a des fois un paquet d'emmerdes qui peuvent arriver, mais des fois, les opportunités, il y a tout un chapitre. Parce que la personne m'a contacté sur Messenger dans un yes day, je ne consulte jamais Messenger. J'ai dit ok, on parle. C'est une coach, etc. On a parlé. Sylvie, à qui je rends hommage dans le bouquin. Et à un moment, il dit, ouais, toi qui bosses sur des populations un peu comme ça, atypiques, des univers extraordinaires et tout, t'as pas envie de faire un saut dans le grand bleu? C'est le titre d'un des chapitres.
Tout à fait.
Mis en relation avec le bras droit du commandant Cousteau,
ouais.
Des champions du monde d'apnée, de machin, des spécialistes des requins blancs, etc., qui s'expriment sur des sujets totalement. Enfin, moi, quand j'écris un livre, il faut que le livre me surprenne, en fait. Et bon, bref, bah, ça, c'est le fruit, le résultat d'un Yes Day.
Ouais. Très, très bon livre. Je cite un passage pour terminer. Où vous dites, qui résume pour moi une grande partie du livre, c'est à force de chercher, de s'activer, de faire plutôt que d'être attentiste, les attentistes, Philippe, les combattants de la 25e heure, d'en connaître un rayon sur son domaine, d'afficher une intention active de trouver, d'être disponible intellectuellement, qu'on finit par atteindre son objectif. Ouais.
On va terminer avec une histoire dentaire. Pourquoi toutes les personnes qui ont les dents de la chance ou les dents du bonheur, hein, ils comblent toujours cet espace entre leurs deux dents.
Beaucoup de dents. Moi, je les avais. J'ai eu un appareil dentaire. À l'époque, j'avais pas le choix. Hein, j'avais pas décidé. Alors, en plus, moi, je trouve ça très, très.
Vanessa Paradis, par exemple, elle a les fameuses dents du bonheur.
Ouais. Voilà. Mais moi, on est sur de la superstition. Hein, mais c'est vrai que le livre, il commence comme ça. J'ai mis une petite photo de quand j'étais un bambin.
Tout à fait.
J'ai les dents de la chance et j'avais l'impression. Je me dis, tiens, mais. J'avais pris conscience de ça quand j'étais petit. Je me dis, tiens, mais si en fait ces dents-là, à un moment,
elles se rapprochent,
est-ce que je vais perdre la chance qui va avec? Bah non, donc c'est une croyance limitante. On peut pas aller au-delà. Moi, je m'estime comme étant quelqu'un d'extrêmement chanceux.
Docteur de la boue que j'ai connu pendant 70 ans avec les dents de la chance et qui un jour les a corrigées. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Et ça a changé complètement son sourire, en fait.
Mmh. Ah ouais, parce que c'est. Après, les goûts et les couleurs, hein. C'est, Mais en tout cas, ça ne stoppe pas la chance à nouveau. C'est quelque chose de. Si on rentre dans le bon schéma mental, si on a les bonnes techniques, et ben derrière, la chance, on la tient.
On peut porter un appareil dentaire, rapprocher ses dents et continuer à avoir de la chance.
Bumbleclots, oui, ce sera le mot de la fin, Philippe.
Voilà, comme il a dit Steve, le titre du livre, tiens, montrez-le, de Christophe Haug.
Provoque ta chance, très bon livre, on invite tout le monde à le lire, plein de pépites, plein de sagesse. Pour les chanceux, ça leur permettra d'augmenter leur QC, voilà. Et pour les
poisseux,
pour les chanceux en devenir, bah, ça leur permettra d'avoir vraiment un mode opératoire avec plein de techniques, d'astuces, de stratégies.
Et juste, n'oubliez pas une chose, c'est plus facile de demander pardon que de demander la permission.
Tout à fait. Voilà.
Faut faire les choses. Faut être en mouvement.
Voilà, faites comme moi.
Just go with the flow.
Bumbleclot.
Voilà, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurrefm et sur la chaîne de By Steve. Très belle journée, santé et pleine de chance sur Beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.